VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 14 juin 2017, en direct de Washington, Idrissa Seroudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République centrafricaine, arrestation à Bangui de deux proches d'un officier insurgé contre le régime de Kinshasa.
Fin hier, toujours en RCA, de la visite de trois jours du responsable humanitaire des Nations Unies.
Au Burkina Faso, la grève des magistrats et du personnel judiciaire devrait prendre fin aujourd'hui.
Au Mali, la douane a saisi 8,5 kg d'héroïne.
Ici à Washington, le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a démenti hier devant la commission du renseignement toute collusion avec le gouvernement russe.
L'étudiant américain Otto Warmbier est finalement libre après une détention de 17 mois en Corée du Nord.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
L'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda a fait sa déposition aujourd'hui devant la Cour pénale internationale sur son rôle alors qu'il était l'un des commandants des forces patriotiques pour la libération du Congo. À l'ouverture de son procès en septembre 2015, l'ancien rebelle avait plaidé non coupable des 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés, dont meurtre, pillage, attaque contre des civils, viol et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. D'après la procureure Fatou Bensouda, Bosco Ntaganda était un des commandants les plus importants lors de crimes ethniques qui ont engendré la mort de 60 000 personnes.
Arrestation à Bangui de deux proches d'un officier insurgé contre le régime de Kinshasa. La Fédération internationale des droits de l'homme craint que leur extradition ne les expose à une exécution extrajudiciaire. Le point avec Eddy Sango.
Les autorités de Bangui confirment avoir mis la main vendredi sur deux collaborateurs de John Tshibangu, colonel déserteur congolais qui menace de renverser les régimes de Kinshasa. Selon le ministre centrafricain de la Sécurité et de l'Intérieur, Jean-Serge Bokassa, les deux hommes sont impliqués dans des activités de déstabilisation de la Centrafrique et de la RDC. Sans vouloir en dire plus, M. Bokassa a précisé au téléphone à VOA Afrique que d'autres arrestations suivront parmi les acolytes des deux hommes. Un procès sera, selon lui, ouvert très prochainement. John Tshibangu, leader du mouvement politico-militaire Front du peuple congolais pour les changements et la démocratie, dit craindre que ces hommes ne soient sommairement exécutés si jamais ils étaient extradés à Kinshasa. Le colonel Tshibangu avait rejeté la victoire de Joseph Kabila à la présidentielle de 2011 et exigé la vérité des urnes depuis le Kasaï où il s'était constitué un bastion avant d'aller en exil à l'étranger. Il promet d'utiliser tous les moyens pour renverser le régime de Kinshasa qui, selon lui, a violé les derniers accords issus du dialogue et se maintient au pouvoir en toute illégalité.
Le responsable humanitaire des Nations Unies a terminé hier une visite de trois jours en Centrafrique, pays présenté comme l'un des plus dangereux du monde. Les humanitaires déplorent le sous-financement de leurs activités en faveur de plus de 2 millions de personnes, Ekiabadou.
La situation sécuritaire est alarmante en Centrafrique. Selon les Nations Unies, 6 travailleurs humanitaires ont perdu la vie en 2016. Depuis le début de l'année, 123 incidents visant des humanitaires ont été enregistrés selon International NGO Safety Organization qui recense les exactions contre les ONG dans le monde. Les interventions de la France et de la MINUSCA, avec ses quelques 12 500 casques bleus, ont ramené le calme à Bangui, mais la moitié du pays reste sous le contrôle de groupes armés. Au premier semestre 2017, d'après OCHA, un plan de réponse humanitaire d'un montant de près de 400 millions de dollars a été demandé, mais seulement 27% ont été financés. Les activités des ONG sont mises à mal par les violences opposant les ex-Séléka pro-musulmans aux anti-Balaka pro-chrétiens.
Au Burkina Faso, la grève des magistrats et du personnel judiciaire devrait prendre fin aujourd'hui. On fait le point avec Morgane Guériec.
Les syndicats de magistrats, de greffiers et de la garde pénitentiaire avaient appelé lundi à un arrêt de travail de 72 heures. Pour dénoncer l'insécurité dans les tribunaux, toutes les audiences ont été suspendues au palais de justice et à la cour d'appel de Ouagadougou, de même que les visites aux détenus. La semaine dernière, des habitants de Manga ont saccagé le palais de justice de la ville, exigeant la libération immédiate et sans condition d'un individu placé sous mandat de dépôt après une altercation avec un garde de sécurité pénitentiaire. Lundi, après s'être rendu à Manga, le ministre de la Justice, René Bagoro Bessolé, a invité le personnel judiciaire à reprendre le travail dès que possible, tout en promettant un renforcement des mesures sécuritaires.
Au Mali, les utilisateurs des réseaux sociaux ont constaté une interruption hier aux environs de 13 heures, nous signale notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. Les effets se sont fait sentir sur Facebook, qui est le plus utilisé dans le pays, puis sur Viber, Twitter, WhatsApp, Imo, etc. D'aucuns expliquent cette interruption par la contestation du référendum prévu le 9 juillet prochain, car les réseaux sociaux sont très utilisés pour lancer des appels à la mobilisation. Selon Kassim Traoré, le ministère de la Communication et des L'économie numérique n'a pas voulu faire de commentaires pour le moment.
Pour rester au Mali, la douane a saisi 10,5 kg d'héroïne d'une valeur marchande de 260 millions de francs CFA. Les détails avec Kassim Traoré.
C'est sur une femme malawite en provenance d'Addis Abeba que les 10,5 kg d'héroïne ont été saisis. Immédiatement, la douane a informé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 6, Boubacar Sidiki Samaki.
Effectivement, les services de la douane ont saisi plusieurs kilos d'héroïne à l'aéroport international président Mouribo Keïta Bamako Senou. La douane a également commencé déjà à passer la main à l'office central.
À l'Office central des stupéfiants, on estime la valeur marchande de la drogue saisie à 260 millions de francs CFA.
Cela veut dire que ce sont les peines criminelles qui sont applicables. Au terme de la loi, ça peut être puni de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende de 5 millions à 50 millions de francs CFA.
Le trafic d'une telle quantité de drogue est une menace qui va au-delà des conséquences sanitaires.
Il y a d'autres types d'infractions comme les infractions de blanchiment de capitaux, de corruption, et toute la criminalité organisée qui tourne autour du trafic des drogues.
Pour faire face à ces fléaux, les différentes structures évoluant dans les domaines travaillent en parfaite harmonie. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Amnesty International a dénoncé hier les condamnations de Tunisiens à un mois de prison pour avoir mangé ou fumé en public pendant le Ramadan. La question a régulièrement fait polémique ces dernières années en Tunisie et le débat est souvent houleux, Anastasie Tudiech.
Heba Morayev, directrice de la recherche pour l'Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré dans un communiqué « Mettre quelqu'un en prison pour avoir fumé une cigarette ou pour avoir mangé en public est une violation absurde des libertés individuelles. Ne pas se conformer à des coutumes sociales et religieuses n'est pas un crime. Aucune loi tunisienne n'interdit de boire ou de manger en public pendant le Ramadan. » Mais les tribunaux peuvent utiliser l'accusation d'outrage public à la pudeur ou d'atteinte à la morale publique pour punir ces actes. Dimanche, quelques dizaines de personnes ont manifesté dans le centre de Tunis pour réclamer le droit de manger et de boire en public pendant le jeûne. Le parquet de Bizerte a indiqué que de telles condamnations sont prononcées chaque année, mais que c'est la première fois qu'elles sont médiatisées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, a démenti hier avoir eu une réunion non révélée avec Sergei Kislyak, l'ambassadeur russe à Washington. Il n'a pas non plus eu de communication indue avec des officiels étrangers, Jean-Roger Bion.
Jeff Sessions a qualifié de mensonger honteux et détestable toute idée selon laquelle il y aurait eu collusion entre lui et des responsables russes pendant la présidentielle de 2016. Lors d'échanges plutôt vifs avec des membres de la commission du renseignement qui enquête sur l'ingérence russe dans cette élection, l'ancien conseiller de la campagne de Donald Trump a dit avoir eu deux rencontres avec l'ambassadeur Kislyak en 2016. Mais il dément qu'il ait eu une troisième réunion avec lui dans un hôtel de Washington en avril dernier à l'occasion d'une réunion politique. Je l'ai peut-être croisé dans une réception, mais je ne me souviens pas, a-t-il dit. Le ministre de la Justice a cependant refusé de répondre aux questions sur ses conversations sur l'affaire russe avec le président Trump, suscitant des accusations d'obstructionnisme de la part des membres démocrates de la Commission. Pour étayer les raisons de son refus, M. Sessions a cité une politique de longue date de son ministère, se réfugiant derrière la prérogative sur la confidentialité de ses discussions avec le président.
L'étudiant américain Otto Wambir est finalement libre de retrouver sa famille aux États-Unis après une détention de 17 mois en Corée du Nord. Mais selon ses parents, il est dans le coma depuis plus d'un an après avoir avalé un comprimé que lui avaient donné ses geôliers. Sa libération a été confirmée hier par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Otto Wambir, 22 ans, avait été condamné à 15 ans de travaux forcés en Corée du Nord pour avoir, dit Pyongyang, volé une bannière dans un hôtel de la capitale de la Corée du Nord. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Le sommet du G20 sur l'Afrique a pris fin hier à Berlin, l'occasion pour 9 chefs d'État africains de plaider pendant 2 jours pour des investissements plutôt que de l'aide. À l'image du président nigérien, pour Mahamadou Issoufou, l'Afrique a besoin de 600 milliards de dollars d'investissement par an jusqu'en 2030. Dans le cadre de ce partenariat gagnant-gagnant entre l'Europe et le continent, soit environ 1% du PIB des pays industrialisés. La Commission de la concurrence en Afrique du Sud a ouvert une enquête contre 3 laboratoires pharmaceutiques soupçonnés de surtarifer des traitements contre le cancer. Elle touche le sud-africain Aspen Pharmacare, premier fabricant de médicaments génériques en Afrique, l'américain Pfizer et le suisse Roche, tous accusés de pratiquer des prix excessifs. La Commission doit ensuite transmettre ses conclusions pour jugement au tribunal de la concurrence. Le Zimbabwe a suspendu ses importations de maïs. D'après Harare, les céréaliers devraient produire 2 millions de tonnes cette année, de quoi subvenir aux besoins de ses 16 millions d'habitants malgré la sécheresse. Le gouvernement affirme avoir mis de côté 200 millions de dollars américains pour acheter du maïs à ses producteurs au prix subventionné de 390 dollars la tonne afin d'encourager la production locale.
Et maintenant, notre page sport avec Bagasikoura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour, Idrissa.
Football en match amical défaite hier du Cameroun face à la Colombie.
Oui, la Colombie a écrasé le champion d'Afrique en titre 4-0 en match amical mardi au Coliseum Alfonso Pérez à Getafe, c'est en Espagne. Grâce notamment à un doublé de Yerry Mina, il s'agissait de la première rencontre de préparation pour la Coupe des Confédérations en Russie, 17 juin au 10 juillet pour le Cameroun qui débutera le tournoi le 18 juin face au Chili. Le Chili battu dans le même temps en Roumanie 3-2.
Et l'Afrique du Sud a été battue par la Zambie.
Oui, les Bafana Bafana se sont inclinés 2-1 ce mardi en match amical à domicile à Moruleng, mettant ainsi fin à une série de 10 matchs sans défaite.
Toujours en match amical, la France était face à l'Angleterre.
Avec cette victoire 3-2 contre les Anglais au Stade de France à Paris, les buts français ont été l'œuvre des Franco-Africains Samuel Umtiti à la 22e minute, de Gibril Sidibé à la 43e minute et de Ousmane Dembélé à la 73e minute.
Football, Pékin a rendu hommage à Cheikh Tiote.
Oui, la mémoire de Cheikh Tiote, l'international ivoirien, décédé subitement la semaine dernière à l'âge de 30 ans lors d'un entraînement avec son club du Beijing Enterprises en 2e division chinoise, a été honoré ce mardi lors d'un service funèbre organisé à Pékin. Tiote, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, avait été transféré en Chine en février après avoir porté pendant 7 ans le maillot de Newcastle United en Ligue 1 anglaise.
Nouveau coup de sifflet de la justice espagnole dans le monde du football.
Oui, et cette fois-ci, c'est Cristiano Ronaldo qui est visé par des poursuites pour une fraude fiscale présumée à hauteur de 14,7 millions d'euros. Comme pour Messi, le nœud de l'affaire concerne les droits à l'image, ces copieux revenus liés aux contrats publicitaires que les footballeurs sont parfois tentés de percevoir via des sociétés à l'étranger. S'ils venaient à être condamnés pénalement, le Portugais Ronaldo risquerait entre 1 et 5 ans de prison, selon le quotidien espagnol El País.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Il s'agit surtout de personnes arrêtées à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011. Une association de femmes est à la pointe de ce combat. D'Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkara.
Je suis dans la souffrance. Mon mari est détenu de manière injuste dans une prison et on vient me parler de réconciliation.
Simone Daté est la présidente du collectif des femmes des détenues de la crise post-électorale, le COFED, une organisation qui lutte pour la libération de tous les détenus politiques. Dans le café où elle nous reçoit, Simone Daté nous raconte le calvaire des membres de l'association qu'elle dirige.
On vit dans l'angoisse, dans la tristesse totale, dans la désolation. Parce que tu ne sais même pas si ton époux vit, ça c'est un d'abord. Après, quand tu sais où ton époux est, quand tu vas trouver ton époux, dans la condition où tu vois ton époux, vraiment, c'est trop grave. Nous sommes obligés de mener des démarches pendant plusieurs semaines pour voir nos époux. Avec les enfants aussi qui demandent maman et papa. C'est compliqué, c'est vraiment triste.
Simone et les autres membres de son organisation tentent depuis des mois de rallier le maximum de soutien à leur cause.
Nous avons croisé le noce apostolique dans le temps. Nous avons croisé le cardinal d'Abidjan, les chefs religieux, coutumiers, tout ça. Parce que nous disons que c'est tous ceux-là qui peuvent être nos médiateurs auprès des autorités. Nous avons même fait des sittings, nous avons fait des grèves de faim. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, il y a encore, malheureusement, nos parents qui sont détenus.
Antoinette Meo fait partie des prisonniers pour qui le collectif s'est mobilisé. Âgée de 61 ans et mère de 6 enfants, cette dame avait été arrêtée en août 2016 pour atteinte à la sûreté de l'État. Après 9 mois de détention sans jugement, elle a été libérée en mai dernier. Pour elle, la libération de tous les détenus politiques sera un signal fort en vue de la réconciliation nationale.
Nous sommes tous des enfants de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la réconciliation, on ne doit pas avoir des prisonniers politiques qu'ils soient tous libérés pour que nous puissions passer à la réconciliation, à la paix et au développement de la Côte d'Ivoire.
Il y a quelques jours, Hubert Houlaye, un haut cadre du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, bénéficiait de la liberté provisoire après 2 années de détention. Selon le collectif des femmes des détenus, quelques 200 personnes, civiles et militaires, sont toujours gardées dans les prisons et sans jugement. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Des migrants ouest-africains, parmi lesquels des femmes, ont été abandonnés hier par leurs passeurs en plein désert dans le nord du Niger. Ils ont été secourus par l'armée nigérienne. Pour en savoir plus, Yakuba Ouedraogo a joint Ibrahim Monzo Diallo, journaliste à AIR Info, à Agadez.
Ces gens, qui sont au nombre de 80, ont été abandonnés par leurs passeurs. Et avant d'être abandonnés, nous avons appris qu'ils ont été d'abord violentés, c'est-à-dire torturés par ces passeurs, sûrement sous la menace des armes pour pouvoir libérer les véhicules qui les contenaient.
Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont perdu la vie?
Non, il n'y a pas de personnes qui ont perdu la vie.
En début du mois, 44 autres migrants, dont des bébés notamment, avaient perdu la vie dans plein désert, dans la région d'Agadez. Quelles sont les mesures qui sont prises pour mettre la main sur ces passeurs-là?
Il y a de plus en plus de passeurs qui abandonnent les migrants. Et chose curieuse, ces passeurs ne sont pas du tout retrouvés. Ils prennent la poudre d'un scampette, ils maîtrisent le désert, ils vont là où ils veulent.
Est-ce que toutes ces personnes qui se retrouvent dans cette partie du Niger sont des migrants?
Il y a beaucoup de migrants, c'est vrai. Et il faut le dire aussi, il y a des Nigériens. Il y a eu des restrictions sur la mobilité d'accepter des personnes au nord Niger pour lutter contre l'immigration. Et malheureusement, la région d'Agadez est devenue les nouvelles frontières de l'Union européenne. Et pour cela, on empêche carrément à des ressortissants ouest-africains de franchir, de continuer à partir de la ville d'Agadez sans pour autant être inquiétés. On fait semblant de croire qu'après Agadez, il n'y a rien, il n'y a que le Niger. Or, après Agadez, il y a toute une forte communauté de Niger qui habitent et qui font leur commerce entre les villes. Mais on fait fi de ça et on empêche carrément à des ressortissants ouest-africains d'aller où ils ressemblent. Parce que la dernière frontière, la dernière ligne qui nous sépare de la Libye, c'est Madama. Or, entre Agadez et Madama, c'est près de 1500 kilomètres. Donc, franchement, cette nouvelle loi, édictée par l'Union européenne, votée par les parlements nigériens, fait entorse, une grave entorse à notre liberté de mobilité au Nord-Niger. Et ça fait aussi ressortir un cas d'érosion de nos valeurs hospitalières légendaires connues dans la région d'Agadez. C'est comme si on nous pousse à ne pas vouloir de nos frères ouest-africains, et c'est ça le danger aujourd'hui au Nord-Niger.
Ibrahim Monzo Diallo, journaliste à R Info à Agadez.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Bénin, la gestion de plusieurs sociétés d'État au Bénin pourrait tomber dans les mains de particuliers, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Ce serait, selon le gouvernement du président Patrice Talon, la solution pour restaurer et remettre sur les rails ces sociétés. Mais les syndicalistes voient d'un mauvais œil cette éventuelle mise en concession des sociétés en question. De Cotonou, les précisions de notre correspondante Ginette Fleur à Dondé.
Encore une autre décision du gouvernement de Patrice Talon perçue par les Béninois, surtout les syndicalistes, comme une trahison totalement en désaccord avec les promesses électorales. En effet, depuis quelques jours, l'actualité au Bénin est marquée par l'annonce de la mise en concession de certaines sociétés d'État. Il était déjà reproché au gouvernement sa gestion aveugle et son insensibilité face aux plaintes des populations qui créent chaque jour misère et chômage. Basilia Odjoubé, secrétaire général du CNTRACNHU, s'insurge contre la mise en concession du plus grand hôpital du Bénin et appelle les travailleurs à se mobiliser pour sauver le gaïpin.
On l'appelle mise en concession, privatisation, mise en gérance, on l'appelle affermage ou toute autre chose, ça concourt à la privatisation du CNHU. Oui, le secteur de la santé a besoin de réformes, mais non au bradage, non à la mise dans la rue des pères et des mères de famille, non, non et à jamais. Non.
Son collègue Théophile Dossou du même secteur voit de mauvais œil cette volonté manifeste du gouvernement à confier la gestion des sociétés d'État aux particuliers, qu'ils soient nationaux ou étrangers.
Comment cette jeunesse qui aujourd'hui est bardée de diplômés, qui n'a pas l'emploi, comment peut-on permettre encore que des retraités viennent travailler à leur place? Donc il y a des paradoxes dans tout ce qui a été proposé. Ils ont proposé non seulement que le CNHU soit mis en concession, mais ils ont proposé au chef de l'État que des médecins de la diaspora viennent travailler à notre place ici.
Sam Michel Amadi est un expert certifié en audit interne. Après avoir expliqué que la mise en concession, contrairement à ce qui est ventilé de part et d'autre, ne saurait être perçue comme un bradage du patrimoine national, a tout de même émis quelques inquiétudes quant à la procédure qui permettra de mettre en concession ces entreprises.
Lorsqu'un repreneur privé reprend une entreprise, c'est d'abord les salaires qui souffrent. Parfois, il y a des licenciements. Donc, je pense que l'État doit faire très attention, déjà dans le contexte où nous sommes, où il n'y a pas d'emploi, où il y a la morosité économique, l'État doit faire très attention à ce que la ressource humaine soit maintenue en place et qu'elle contribue véritablement au bon fonctionnement de ces entreprises-là.
Les syndicalistes dans tous les secteurs se mobilisent et appellent le peuple à se lever pour exiger du gouvernement de la clarté dans la gestion publique.
On a constaté que ce gouvernement continuait par faire ses réformes comme si le Bénin était une entreprise privée. C'est seulement que les travailleurs se mobilisent et que le peuple se mobilise pour faire échec à cette gouvernance désastreuse qui enlise le peuple dans la misère et qui aggrave sa situation par, disons, la résurgence de cet homme de taxes et d'impôts qui asphyxie le pouvoir d'achat et amenuise le panier de la ménagère.
Plusieurs actions sont prévues dans les prochains jours par les centrales syndicales pour dénoncer le silence du gouvernement sur les urgences de l'heure. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Retour sur la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Riyad, on le sait, a rompu ses relations avec son voisin, qu'elle accuse de soutenir des terroristes tels que les Frères musulmans, le groupe État islamique et Al-Qaïda. L'Afrique prend peu à peu position. Le Niger, le Sénégal et le Tchad ont rappelé leurs ambassadeurs à Doha et la Mauritanie a rompu ses relations avec le Qatar. Comment expliquer ces réactions ? Morgane Guériec a joint Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte et professeur d'arabe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Des pays africains qui veulent exprimer leur solidarité avec l'Arabie Saoudite, compte tenu du dernier sommet que des présidents des États-Unis qu'il a tenu donc à Riyad, où beaucoup de chefs d'État africains et arabes étaient invités, avait beaucoup influé sur la position de ces États. Mais je pense que dans l'ensemble, ces pays-là entretenaient aussi des relations correctes avec le Qatar et non pas des différents particulier qui pourrait expliquer donc leur position de défiance.
Quel intérêt ont-ils à soutenir l'Arabie Saoudite ?
Tous ces pays-là, c'est des pays de forte population musulmane. Et l'Arabie Saoudite, pour les pays musulmans, c'est un symbole que aussi l'Arabie Saoudite est un pays qui a beaucoup aidé financièrement dans les investissements de développement. Sur le plan géostratégique, les relations particulières entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, ces pays-là également ont voulu renouveler leur amitié avec les États-Unis.
Le président guinéen Alpha Condé, qui est président de l'Union africaine, appelle au dialogue et offre sa médiation afin de trouver une solution pacifique.
C'est une manière de nuancer un peu donc les positions exprimées par les pays qui ont rompu ou qui ont appelé leur ambassadeur. Concernant les déclarations du président Macky Sall, eh bien, le président a appelé à la désescalade. C'est véritablement une manifestation de solidarité avec l'Arabie Saoudite, mais il ne faut pas l'interpréter comme une hostilité à l'égard du Qatar. Parce que la plupart de ces pays ont des relations économiques, comme le Sénégal, par exemple, avec le Qatar.
Alors, l'Union africaine qui propose sa médiation, est-ce que c'est juste une déclaration de bonne intention ou peut-elle vraiment influencer cette crise ?
Oui, moi, je pense qu'effectivement, ça peut influencer, dans la mesure où les intérêts de l'Arabie Saoudite en Afrique sont immenses. Si l'Arabie Saoudite veut continuer à garder sa suprématie sur le continent africain, il devrait écouter le continent africain.
C'était Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte et professeur d'arabe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Dans Washington Forum ce jeudi, on fait l'état des lieux des services d'urgence en Afrique. Du Sénégal au Cameroun, les problèmes se ressemblent. Taux de mortalité, manque de matériel et prise en charge des services d'urgence des hôpitaux en ville ou en province. Pourquoi tant de mortalité ? À quoi ressemblent les formations des urgentistes ? Quelle politique de santé pour gérer les urgences ? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosse et ses invités.
Salut les amis, Roger Muntou de RM Show en direct de Washington DC sur VOA Afrique. Notre sujet de cette semaine, l'influence des parents dans le couple. Ah oui, un sujet très très important. N'y ratez pas cette émission les amis, vos opinions en direct sera au 001-202-205-2633. Encore une fois, c'est 001-202-205-2633 ou alors vos messages WhatsApp ou Viber au 001-703 350-37-31. Vous allez aussi nous regarder, nous suivre en live sur Facebook Live VOA Afrique. RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ok, connexion Sakhalin. Bien plus bien danser au Sakhalin. Ne perds pas la vision Sakhalin. Surtout pour lâcher tes pulsions Sakhalin. Barbie a dansé au Sakhalin, hein. Becky Sakhalin, si tu es, tu veux ta rythme Sakhalin. Non, c'est toi que ça va chiller. Toi que les bonnes choses vont durer. Rien à censurer, d'ici tout ça, la liste est clôturée. Sakhalin, 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 hein.
modèle, satanin, c'est pas du tout tout compliqué, satanin, ce côté qui tu parais, les meufs me demandent si je suis marié.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.